Bonjour à tous, bienvenue sur le 85e épisode de Comics Weekly. Je suis cette semaine avec Mr. Ron Ebony.
Eh ben oui, tiens, ça faisait longtemps.
La petite gastro est partie.
Ah, c'était même pas une gastro en plus. C'était ça le pire, c'est qu'on pouvait imaginer que c'était une gastro, mais c'était même pas une gastro. C'était, je sais pas, une saloperie de virus.
Empoisonnement alimentaire.
Une sorte de grippe, non, je sais pas. Ça ressemblait plus à une grippe, au fait.
Mais tu remarqueras qu'on attaque fort, hein, quand même. On parle de gerbie et tout, ouais. Dès les premières secondes.
Ouais, ouais, ça faisait 15 ans que j'avais pas été malade comme ça, au moins, pour te dire. Parce que je ne suis jamais malade, normalement. Donc voilà, c'est très très rare.
Écoute, pour faire une mauvaise blague, c'était peut-être la myxomatose.
Ah oui, bah oui, forcément.
Voilà.
Forcément, ça me pendait au nez. Ça ouais. Me pendait aux oreilles, plutôt.
Bon. J'en remercie d'avoir essayé de me sauver, mais non, la blague était trop mauvaise. Bon, on va faire, comme d'habitude, des reviews, hein, bien sûr, mais avant, on va commencer par les news. Et on va se lâcher sur les news, hein, on va y aller gaiement.
Ouais, bah y a pas mal de choses finalement, pas mal de petites choses à droite à gauche. On commence par quoi? Par Marvel, ben, peut-être?
Écoute, je vais commencer pour faire la transition la plus pourrie de l'univers, par la ligne de comics Archie. Tu vas comprendre pourquoi je te dis la transition la plus pourrie. J'aurais dû en parler la semaine dernière, mais honnêtement, ça m'est un petit peu sorti de la tête. Le comic Life with Archie numéro 16 a été sold out. On s'est aperçu de ça notamment la semaine dernière. Qu'un comic d'Archie soit sold out, c'est quand même assez rare. Je crois que la dernière fois qu'on avait autant parlé d'Archie et du fait que le comic soit sold out, c'était pour le mariage d'Archie, justement.
Ouais, le mariage. 500. Est-ce que c'était le fameux mariage gay, non?
Eh ben voilà, c'est ça. Donc tu vois la transition, allons-y gaiement, c'était.
Oh, ah
ouais, c'était non, c'était bah, vraiment moisi. Hein.
C'était quand même une grosse blague bien drôle.
Ah ouais ouais non mais écoute, je suis totalement en forme. Et donc en cherchant un peu quelques infos sur ce numéro, je suis tombé sur pas mal de trucs et notamment sur le fait que la American Family Association, donc qui est un groupe chrétien conservateur, on est aux États-Unis en même temps. A fait toute une campagne de manière à essayer de boycotter le comic. Et notamment s'en est pris au Toys R Us qui vendent comic Life with Archie. En disant que c'était un outrage que d'avoir une couverture où on voit écrit Just Married avec deux hommes juste sous la bannière et notamment un en costume militaire, en plus.
D'accord, oui.
Enfin, en uniforme, pardon, costume, c'est pas très bien, uniforme.
Oui, uniforme militaire, mais d'accord, mais c'est assez bizarre alors.
C'est hallucinant. Enfin, malgré tout, le comic est sold out, donc finalement, voilà, est-ce que finalement cette campagne de dénigrement n'a pas fait du bien? Et apparemment, le comic se trouve en ce moment aux alentours de 45 à 50 dollars.
Ah, d'accord, carrément.
Ah, ouais.
Donc il a vraiment fait son petit effet, quoi. C'est vraiment un phénomène de société.
Mais moi, je trouve ça bien que, bon, qui est, enfin, voilà, Archie étant. Quand même une assez grosse institution aux USA, beaucoup moins chez nous. Hein. C'est vrai qu'on connaît très très peu cette série et ce personnage.
Enfin, quasiment pas, hein. De toute façon, c'est vraiment... Alors, c'est plus pour un jeune public ou c'est au contraire pour adultes?
Ben, honnêtement, normalement ça s'adresse à tous les âges, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie peut-être un peu plus quand on est plus âgé, quoi.
D'accord, ouais, donc de toute façon, c'est un petit peu idiot comme polémique. Puisque de toute façon, si ça s'adresse plus
mais
à des...
Mais c'est pour tous les âges, hein, de toute façon, puisque c'est vendu dans les Toys R Us, donc ça s'adresse à tous les publics.
Ouais.
Mais je pense que c'est quelque chose que l'on apprécie plus avec un regard un peu plus âgé que le gamin, entre guillemets, d'une dizaine d'années, quoi. Moi, je trouve ça bien que, voilà, on fasse évoluer les personnages. Contrairement à certains autres, tel Spider-Man, on n'hésite pas à marier le personnage principal et à le faire, donc, du coup, vieillir. Changer peut-être un peu de cible. Là, on a un mariage homosexuel. Il y a, je trouve, au moins une certaine idée de vouloir montrer une société légèrement utopique où tout est accepté.
Bah, de toute façon, d'ici que Spider-Man fasse un mariage gay, à mon avis, on a le temps de voir venir. Hein.
Bah écoute, ils viennent se mettre en ménage avec Johnny Storm. C'est
tout
jamais.
Oui, enfin bon, faut pas s'enflammer. Oh.
Je pense que ce serait un couple très hot.
Oh,
attention.
Attends, j'essaie d'en trouver une autre, mais ça veut pas sortir. Bon, mais écoute, bon, moi je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien quand même, finalement. Enfin, c'est bien d'en parler, hein, justement.
Ah oui,
mais.
Mais c'est juste, voilà, enfin, c'est les polémiques à l'américaine, comme d'habitude, quoi. Et avant de passer sur les Big Two, je vais continuer avec Valiant, qui continue sa série de teasers pour cet été et son grand retour. Donc j'avais annoncé sur le site les trois premières sorties qui nous avaient été communiquées, donc IXO Manowar, Harbinger et Bloodshot, donc respectivement en mai, juin et juillet. On connaît enfin l'équipe créative de Bloodshot et ce sera Dwayne Swarzynski au scénario. Relativement connu. Emmanuel Garcia au dessin.
Ok.
Et ils ont annoncé leur dernier titre pour leur fameux Summer Valiant, c'est Archer and Armstrong, la dernière grosse franchise qu'ils avaient à l'époque. Mmh. Et au crédit, on trouvera Fred Van Lanty.
Ah ouais, ouais.
Et Clayton Henry, qui aurait travaillé sur du Uncanny X-Men. Je ne connais pas.
Mais c'est vrai que Swarzynski et puis... comment s'appelle-t-il, Fred Van Lanty. En ce moment, on les voit plus trop chez Marvel.
Bah, Swarzynski est sur de Birds of Prey, actuellement.
Oui, oui, c'est vrai, il est chez DC.
Enfin, je crois d'ailleurs que l'équipe créative vient de changer, peut-être.
Ouais. Oui, enfin, voilà.
Et Fred Van Lanty écrivait le Hulk Season 1 qui va sortir prochainement.
D'accord. Mais on les voyait quand même plus avant.
Non, c'est vrai, oui, on les voyait beaucoup plus. Bah, déjà, parce qu'il faisait, enfin, Fred Van Lanty faisait partie du Spider-Brain Trust. Donc, ouais. Il écrivait régulièrement du Spider-Man. Et Swarzynski écrivait Iron Fist, notamment. Il écrivait Cable, mais ce sont deux séries arrêtées maintenant. Donc non, bah moi en tout cas, je sais que j'irai jeter un œil du côté de Valiant, voir ce que ça donne ce petit relaunch façon 2012.
Ok.
Je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse.
Pas du tout. Donc on va peut-être passer à autre chose.
Non, je plaisante. Oui, non, mais tu as le droit de ne pas être intéressé. En même
bah
temps,
non, si c'est juste que je connais pas du tout, mais par contre, il est pas impossible que j'essaye l'un de ces titres et que ça me plaise. On n'est pas à l'abri de bonnes lectures, de bonnes surprises, même si en ce moment ça devient de plus en plus rare quand même.
J'ai l'impression qu'il faut souvent se tourner vers de plus petits éditeurs pour arriver à trouver des choses qui sortent de l'ordinaire en ce moment, disons.
Ouais.
Encore plus qu'avant, disons. Voilà. On va passer maintenant aux chiffres de vente qui ont été dévoilés. Les chiffres de vente de février et
et c'est archi deuxième... qui arrive en tête.
Presque, non, quand même pas. Pour le deuxième mois consécutif, DC a trusté les 10 premières places du top.
Ouais, d'accord, quand même.
Donc on a respectivement dans l'ordre Justice League, Batman, Action Comics, Detective Comics, Green Lantern, Batman The Dark Knight, Superman, Flash, Aquaman et Batman et Robin. On voit quand même que la franchise Batman se porte sacrément bien, puisqu'elle place quand même 4 titres dans le top 10.
Ouais, mais moi je suis de plus en plus sceptique par rapport à ce relaunch quand même, au vu de ce que j'ai lu récemment, et je trouve pas que ce soit malheureusement très mérité. C'est bien pour DC, parce qu'il y a quelques mois j'aurais été bien content qu'ils trustent les places devant Marvel, mais faut avouer que je suis de plus en plus déçu par ce relaunch quand même.
Il y a aussi un autre effet, le deuxième effet qui se coule, quand même, c'est que les titres DC, à l'exception d'Action Comics et Justice League dans ce top 10, hein, ils sont tous à 2,99. Là où les titres Marvel sont à 3,99. Et je pense que en ces temps assez difficiles financièrement, ça joue. $1 sur chaque comic, ça joue. Donc je pense que ça attire aussi plus le public. Quand on regarde ensuite ce qui vient dans le top, hein, Marvel place les deux Uncanny X-Men en place 11 et 12. Donc Uncanny X-Men se porte plutôt bien. Wolverine and X-Men ensuite pour les deux places suivantes. Et le gros truc du moment quand même, Avengers Extinction se place que 17e.
D'accord, ok, oui, c'est vrai. Mais tiens, mais d'ailleurs, le quatrième numéro, j'ai l'impression qu'on le voit pas arriver.
Sortira la semaine prochaine, je crois.
Ah d'accord, ok.
Je crois.
J'ai l'impression que c'est...
De toute façon, il sort au mois de mars, quoi qu'il arrive, donc...
Ouais.
Mais je sais, peut-être la semaine prochaine. J'ai pas regardé encore ce qui sortait la semaine prochaine. Okay. Alors, là où par contre, ce qui est le plus important, donc, au-delà du fait que DC a trusté les 10 premières places pour la deuxième fois consécutive, ce qui est le plus important, c'est que la part de comics... vendu, la plus grosse part revient quand même à Marvel malgré tout, en termes de vente et en termes de dollars engrangés.
Oui, parce que leurs comics sont plus chers déjà d'une part, et d'autre part, je me demande s'il n'y a pas une question, alors je sais pas, ils s'y étaient pris d'une manière que il y avait plus de comptes du côté de chez Marvel, je sais plus si c'était une question de réseau de distribution ou quoi que ce soit, mais du coup ça leur faisait plus de comics pris en compte.
Ah, c'est possible.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'ai plus les détails en tête, mais j'avais lu un truc comme ça où en fait ils expliquaient que la raison de ce chiffre plus important était qu'ils avaient mis en place une stratégie qui faisait que bon bah voilà, ça venait gonfler un petit peu les chiffres de vente.
Mais quand on regarde les pourcentages de parts de marché, finalement, Marvel est à 38% 38,61% pour être exact.
Ouais.
DC est à 35,26%. Alors, il n'y a pas une grosse, grosse différence, mais malgré tout, Marvel reste devant. Par contre, juste après, et là, c'est là que c'est assez énorme, la chute est monstrueuse. Le troisième en termes de vente, c'est IDW.
Ouais.
Et vend 5,62%.
Ouais.
Donc, bah, on passe ça m'étonne de 38 pas plus que ça. Et 35 à 5 seulement.
Oui. Ouais, ouais, bah ça m'étonne pas plus que ça, mais par contre, ce qui m'étonne, c'est que ce soit DW. Tu vois, moi j'aurais dit.
Mais Image est quatrième. Image est quatrième, suivi de Dark Horse.
Ok. Voilà.
Suivi de Dynamite et Boom, pour être vraiment.
IDW, donc qu'est-ce qui fonctionne vraiment chez eux?
Bah notamment leur licence, ouais. Principalement, hein, puisque c'est vrai que.
Mais c'est quoi du coup? C'est Buffy, bah, non?
Le premier là, le premier hein, pour le top du mois de février, c'est Magic. Magic the Gathering,
ah, oui.
qui est 69e hein, quand même. Hein. 69e dans le top. Puis le deuxième, c'est Magic the Gathering numéro 2.
D'accord, mais c'est pas eux qui font Buffy.
Non, c'est Dark Horse.
Ah oui, c'est vrai, c'est Dark Horse. Oui, d'accord, bah, j'aurais pas dû IDW, tu vois. Je suis surpris.
Et dans le top 100, on n'a pas énormément de choses hors Marvel et DC, hein, mine de rien. C'est assez pauvre, hein. Là j'ai le top sous les yeux. Et IDW arrive à placer donc Magic à la 69e place. Buffy est 68e et c'est le premier Dark Horse. Mmh. Et ensuite, on a Conan qui se place 89e chez Dark Horse et Fatal de chez Image qui se place 100e. On n'a que le top 100 pour le moment. Du côté des graphiques nouvelles, la plus grosse vente, c'est Batman Gates of Gotham.
D'accord, ok.
Et en deuxième, le Fantastic Four Season 1.
Ok.
Donc maintenant, la dernière chose, et peut-être la plus importante de toutes, c'est que le nombre de ventes de comics remonte.
D'accord, enfin, c'est peut-être enfin le renouveau, quoi.
Alors déjà, il remonte de 8,6% par rapport au mois de janvier de cette année. Hein.
Oui.
Les ventes en tant que graphique novel remontent de 11,07.
Ouais.
Voilà, il y a quand même une progression. Mmh. Et quand on regarde les chiffres par rapport à février 2011, on voit que l'augmentation de ventes de comics est de 19,63%.
Ouais, c'est pas mal. Mais c'est peut-être dû surtout à tous ces films hein, depuis un an, quoi.
Oui, plus les Fairy Launch, hein, je pense. Hein. Malgré tout, on pourra se rendre compte vraiment, je pense, en septembre de l'année prochaine, quand on aura les chiffres de septembre de l'année prochaine, après le fameux relaunch DC.
Et puis quand Marvel aura annoncé le sien.
Oui, aussi. Mais oui, parce que c'est vrai que si ça tombe par rapport au mois de septembre, forcément, ça va encore booster un petit peu les ventes. Mais on se rend compte que les comics remontent. Et je pense que c'est une bonne chose, quoi.
Oui, bah c'est une bonne chose, oui, oui, c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour les lecteurs.
Bon. Parce que c'est vrai qu'on crie toujours que c'est un marché en crise et que tout tombe, ça tombe tout le temps et que voilà, il n'y a plus rien. Bah la preuve que non, finalement, ça remonte un peu, donc.
Ah tout ouf, était quoi. En crise, c'était vraiment le creux de la vague dans toutes les industries du divertissement. Je pense que tout remonte un petit peu, là, ça y est, ça reprend de la vigueur un petit peu partout. Et tant mieux. Tant mieux. Mais bon, enfin, je pense que ça va suivre son petit bonhomme de chemin tranquillement.
Ah mais moi, enfin, je reste quand même assez sur le cul de cette augmentation de quasi 20% par rapport à février de l'année dernière quand même. Mmh. Parce que c'est pas rien 20% quand même. C'est pas.
Ouais. Bah, il y a plusieurs facteurs comme tu dis, le relaunch, le cinéma, etc. Et je pense que ça va se tasser au bout d'un moment, mais tant mieux hein, si ça. Ouais,
le comics n'est pas mort.
Ouf. Non. Non, non.
Alors, est-ce que c'est le dernier sursaut de la bête avant?
Non, ça m'étonnerait.
Avant qu'il s'écroule, enfin, qu'elle s'écroule plutôt.
Mais... Non, non, moi ça m'étonnerait. Et puis je pense aussi que le papier n'est pas mort, on en avait parlé, on avait eu un long débat il y a des années.
Non,
il y a
pas ne serait-ce que pour se torcher, il en faut bien.
Voilà. Et je pense que le papier comics, le comics papier a des beaux jours encore devant lui. On va peut-être passer quand même aux news Marvel et Marvel.
Et puis ben, on va rester sur le côté vente, puisque Marvel a annoncé pour le mois de juin que tous ses comics auront un code qui permettra d'avoir la version digitale, inclus dans toutes les comics, gratuitement. Quel beau geste.
Oui, enfin voilà, est-ce que franchement ça sert à quelque chose? Quand t'achètes un comic, est-ce que tu veux la version digitale?
Alors, ça peut être bien si tu laisses ton comic chez toi et que tu dois partir et que bah, tu es l'heureux possesseur d'une tablette ou d'un iPhone ou quelque chose qui te permet de le lire.
Non, bah, ça peut être bien si t'as un pote qui est alors attends, est-ce que cette version digitale déjà est exclusive? Comment ça fonctionne? Alors,
ben oui, le problème c'est que tu auras qu'une seule copie. Donc si tu donnes ton code à un pote, toi tu n'auras pas pour toi.
Ouais, enfin, parce
que t'auras le comic papier bien sûr. Mais
Ouais. Non mais t'as juste un code d'accès utilisable une fois.
Oui, mais ça te permet de l'avoir dans ta bibliothèque à jamais, puisque quand une fois que t'achètes un comic, tu l'as à jamais en fait en digital.
Ouais. Oui, d'accord, je vois. Ouais. Donc à la rigueur, si vraiment t'es sympa et que tu t'en fous surtout
Oui,
de
voilà.
la version digitale, tu peux toujours filer le code à des potes et puis comme
Pour
ça.
leur faire découvrir, c'est sûr. Maintenant, faut
Mais
voir
je pense
si.
que c'est le but de la manœuvre en plus.
Oui. Après, combien de codes on va retrouver vendus sur le net? Vend de digital pour 1 dollar, histoire de rentabiliser son achat.
Ça m'étonnerait ça.
Ah! Alors là, tu vois, moi, je parierais pas. Alors,
Ouais.
apparemment, c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà sur leur ligne Ultimate depuis 2011.
Bah d'accord, bon, je n'avais jamais remarqué, mais en même temps, comme j'achète pas Ultimate en VO.
Moi non plus.
Voilà.
Donc voilà,
Mais.
enfin bon, bah on verra. Moi, ce qui me fait un peu peur dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que s'ils font ça, c'est que le digital ne marche pas tant que ça. Et d'ailleurs, pour corroborer cette hypothèse, le fait qu'on ne voit pas les chiffres de vente digitale. Jamais. On n'a
Effectivement.
aucune idée de si le digital marche ou pas.
Ouais. Il y a pas de chiffres autour du digital, mais en même temps, bon, le digital, c'est encore un phénomène assez récent.
Bah, le digital, Marvel l'utilise déjà depuis 10 ans, hein, au moins.
Oui, mais enfin, je dis un phénomène assez récent dans le sens où les gens, enfin les consommateurs l'utilisent que depuis récemment, quoi. Les offres sur le digital, il y en a pas eu 36 000 non plus. Enfin bon, bah justement à ce propos, donc il y a ce fameux logo.
Oui, dont tu m'as parlé, donc j'avais complètement raté la news.
Ben ouais, non mais c'est un truc dont on parle plutôt pas mal en ce moment sur Internet. Alors, au fait, c'est un logo présenté par Joe Quesada, un logo comics, mais le C et le O de comics, au fait, sont comment dire, le logo est de telle sorte que ça fait le signe infini. Et c'est présenté sous le nom de Infinite Comics. Et on sait pas qu'est-ce que c'est ce projet au fait finalement. Donc on aura des réponses le dimanche 11 mars. Donc ce dimanche, au Palmer Event Center, donc je ne sais pas où il est ce Palmer Event Center, je ne sais pas dans quelle ville des États-Unis, mais
Sûrement New York.
certainement, ce sera couvert par le site IGN, donc faudra se tourner vers IGN pour avoir des réponses sans doute, et seront présents donc Joe Quesada bien sûr, Jeff Loeb, et aussi Peter Phillips qui est le directeur des médias digitaux Marvel. Au fait, il y aura tous les pôles de représentés
Alors,
pour...
apparemment, ce serait à Austin, Texas.
D'accord, bah voilà,
Autant pour moi,
tu
tu
vois,
vois.
c'est pour ça que je préférais pas me prononcer, mais ok, donc ils seront au Texas, yeah, chez les cow-boys. Et voilà, et donc apparemment ça va mêler les trois pôles différents de Marvel, quoi, le pôle digital, le pôle emploi bien sûr, j'ai compris,
le pôle comics
le
et
pôle comics et puis
le pôle
voilà.
jeux vidéo animation.
Pôle jeux vidéo et animation, voilà. Non mais je dis ça parce que le pôle emploi, bah il y en a eu, enfin des personnes chez Marvel qui en ont eu besoin récemment puisqu'ils avaient viré pas mal de monde aussi.
C'est toujours une preuve que l'entreprise va très bien, ça.
Voilà, exactement. Et alors du coup, les spéculations vont bon train, on parle peut-être d'une annonce d'un futur relaunch Marvel, on parle aussi de quelque chose qui va lier au fait les comics papier, les jeux vidéo et puis les dessins animés. Alors peut-être qu'on aura
À chaque
des
fois que tu
histoires.
achètes un jeu vidéo, tu auras un code pour avoir un comic digital.
Non, mais peut-être qu'il y aura des histoires qui auront des ramifications à travers les jeux présentés, à travers les séries animées. J'espère pas, hein, franchement, parce que...
Mais le cross-média est toujours une expérience intéressante, sauf quand elle l'oblige, pour arriver à comprendre une histoire, à passer à travers ces différents médias.
Oui, et puis, enfin, de toute façon, il n'y a pas de secret, c'est vraiment pour pousser à la consommation, mais moi je sais très bien que, quoi qu'il arrive, je vais pas acheter un jeu vidéo et faire le jeu juste pour savoir ce que dit le personnage à tel moment, parce qu'on le voit pas dans le comics, quoi. Voilà.
C'est clair.
Donc, bon.
On trouvera bien quelqu'un qui mettra la séquence sur YouTube,
Oui,
en la
enfin,
capturant, donc, de toute façon.
au pire des cas, mais bon, je préfère, quitte à lire des comics, je préfère avoir tout dans le comics, de devoir
Oui,
aller
c'est
voir ailleurs, quoi. Enfin bon. Après, je comprends que ça peut être très bien, surtout pour un jeune public qui joue aux jeux vidéo. Mais enfin, en même temps, il joue aux jeux vidéo, mais est-ce qu'il a à la fois il lit des comics et enfin voilà, bon, c'est toute la question, quoi.
ben non, puisque c'est pour ça que les comics longent.
Mais oui, mais voilà, c'est ça. Non, mais je pense qu'on est sur enfin les différents pôles, malheureusement, ça ne reste pas aux différents, enfin
Au
ça
même
s'adresse
public, ouais.
malheureusement à différents publics, à différentes tranches d'âge aussi, surtout. C'est générationnel, donc voilà.
On verra, hein. De toute façon, pour le moment, ce ne sont que des spéculations. On aura les réponses d'ici 2 jours. Bon, moi, quand vous entendrez ce podcast, bien évidemment, on les aura peut-être même déjà eu. Mais de toute façon, on en reparle très prochainement et on ne se gênera pas pour cracher dessus. On est comme ça chez nous. Si ça se trouve, ce sera peut-être une chose qu'on va encenser et dire que c'est la meilleure idée de tous les temps.
Oui.
Peut-être même
en tout
qu'on
cas...
dira que c'est une meilleure invention que le feu et la roue réunies.
Voilà, et que Jeff Lobb et que Jeff Lobb
que l'internet.
Que Grant Morrison aussi.
Bon, on sait pas, on verra. On est un peu critique parce que c'est vrai que bon, les dernières bonnes idées de Joe Quesada, faut remonter à loin pour les chercher, quoi.
Et on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Toujours chez Marvel, ce fameux teaser Spider-Man,
ouais,
dont on avait déjà vu quelques images passer, eh bien, ça continue. Et on nous annonce ça pour juin, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Sarah Piccelli.
Oh, ça me rappelle quelque chose, ça.
Oui, alors, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Les spéculations vont montrer. L'image que tout le monde a reçue par les annonces de presse s'intitule Spider-Man underscore teaser 1. Ce qui implique donc qu'on en aura plein d'autres, comme toute communication chez Marvel, bien sûr. C'est bien aussi d'avoir un petit peu de surprise, moi j'aime bien. Enfin bon. Apparemment, les spéculations les plus reprises par tout le monde, c'est que ce serait une sorte de tandem entre peut-être le Peter Parker, le Miles Morales et quelqu'un d'autre, puisqu'il y aurait trois Spider-Man.
Ah, il y en a trois?
Ah, apparemment. Peut-être. Donc voilà, peut-être une espèce d'équipe de mélange d'univers.
Ah non, moi je pense pas du tout à un mélange d'univers, mais je pense tout simplement que ça va nous annoncer le retour de Peter Parker dans Ultimate Spider-Man, ce qui n'est pas du tout étonnant, puisque je savais que Mike Morales n'allait pas fonctionner. Donc voilà, c'est encore une fois très prévisible. Je pense que ça va être le truc le plus prévisible du monde, mais bon, on va voir.
À savoir si ça va bien se passer dans l'univers Ultimate. Hein.
Ah, j'en suis persuadé, moi. Tu vois, moi, alors là, franchement, je n'ai aucune attente, et je pense que ça va être vraiment tout plan-plan.
Il y a de fortes chances, surtout quand on voit l'équipe créative, mais bon.
Oui. Non, mais là, honnêtement, je suis pas du tout convaincu que ça soit un truc extraordinaire.
Et donc, ce sera une série, hein, et pas seulement le nom d'un arc.
Oui, c'est un nouveau titre, quoi.
Ça débarque en juin, comme on l'a dit. Toujours en juin, une petite image qui s'appelle Save the Date, dans Astonishing X-Men 51, par Marjorie Liu. Un mariage à venir dans la série Astonishing X-Men.
Ouais.
Plus de réponses dès qu'on en a.
Ok. Mais je crois que c'est le mariage de North Star, hein, d'après les rumeurs que j'ai lues.
Peut-être. Peut-être. Avec qui?
Bah donc, dans ce cas-là, un mariage gay, justement.
Bah,
enfin,
ouais.
Vraisemblablement. Sauf s'il a changé d'avis, je sais pas.
Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait.
Mais alors, la grande question, c'est effectivement, oui, avec qui?
Ouais, je cherche. Allez, avec Gambit.
Ah oui. Oui, bah en même temps Gambit, on le voit tellement plus maintenant. Et voilà, bon bah peut-être.
Si j'ai vu passer ce matin l'annonce d'un crossover, j'étais pas du tout au courant. Alors, c'est peut-être une annonce qui a déjà été faite depuis un petit moment. Un crossover entre Doctor Who et Star Trek.
D'accord, moi je pensais que t'avais dit entre Doctor Who et Sherlock Holmes.
Chez IDW, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Faudra voir ce que ça va donner.
Ouais.
Ça peut être intéressant, ce sera donc avec l'équipage de Next Generation.
D'accord, ok. Bah, est-ce que tu avais jeté un œil au crossover entre la Légion et Star Trek?
Non, j'ai pas encore lu. C'est prévu, mais je l'ai pas encore lu.
De surcroît, ça veut rien dire du tout. Mauvaise transition, c'est pas grave. Je voulais te parler aussi, parce que j'allais oublier, d'Ultimate Spider-Man, le dessin animé.
Oui.
Dont on voit de plus en plus de vidéos ici et là sur Internet. D'ailleurs, je me demande même s'ils n'ont pas déjà diffusé un épisode aux États-Unis.
Si, il est déjà passé dans une soirée spéciale, dans un cinéma.
D'accord. J'aime bien tes infos, tu sais, c'est le truc super confidentiel. Il y a eu une soirée spéciale dans un cinéma perdu au milieu du Texas.
Non, c'était, il y a eu une annonce. Je sais pas si c'est déjà fait ou si c'est prévu de le faire, mais j'ai vu l'info passer cette semaine.
D'accord, on est à la pointe de l'info, c'est formidable. Ouais. Donc, mais, tout ça pour te dire que j'ai vu des images et je suis assez étonné au fait du. Je trouve franchement que l'animation, le character design, etc., me fait penser à un dessin animé d'il y a 10 ans. Grosso modo. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais à peine, quoi. Je suis assez déçu de la qualité graphique du truc et du rendu visuel et puis de. Je sais pas, je trouve ça un peu vieillot, un peu terne, un peu mou. Par exemple, avant l'enregistrement, je suis tombé par hasard sur un extrait de Young Justice, et je trouvais ça bien plus péchu et bien plus dynamique, quoi.
Moi j'avais vu le pilote, j'ai pas vu la suite de Young Justice. Mais ça m'avait bien plu.
Ok. Mais je vais pas encore regarder. Je dois dire que j'ai énormément de retard sur tout ce qui est dessin animé, DC. de ces dernières années, et à mon grand regret, parce que il y a l'air encore d'avoir des trucs pas mal. Et bon, bah voilà, donc Marvel un petit peu à la traîne en ce qui concerne l'animé, je crois. Est-ce que ça va s'arranger avec Ultimate Spider-Man? Bon, on verra.
Ben oui, on verra. Enfin, moi, j'attends de voir. J'ai pas vu d'image, hein, mais j'attends de voir parce que ça peut être sympathique. Surtout, il y a Jeff Lobb derrière, donc quand même quelqu'un qui sait un minimum ce qu'il fait.
Bah, on voit qu'il y a Jeff Lobb dans la mesure où il y a plein, 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 plein de personnages de l'univers Marvel qui se retrouvent là. Ça a l'air d'être assez le bordélique. Donc bon,
Bah,
je sais pas.
moi, j'attends de voir.
Est-ce qu'on a fait le tour de toutes ces news?
Il nous restait, bah, puisque tu as parlé de vidéo, c'est vrai, on a cette semaine, Millar a dévoilé une nouvelle vidéo
Ah
pour
oui.
faire la promotion du Millar World. Une vidéo que je mettrai sur Facebook, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Alors attention, elle est en VO, elle n'est pas sous-titrée.
Attention, elle comporte des enfants.
Ouais, et attention, ils ont des accents à couper au couteau. Vive l'accent écossais. Bon, bah voilà quoi, c'est Millar qui fait sa promo, il essaie de faire une vidéo qui va devenir virale.
Ah, je sais pas si elle va devenir virale.
Moi, ça me fait un peu sourire, quoi. Je trouve ça un petit peu basique, quoi,
Oui,
franchement.
enfin voilà, moi j'ai été étonné du peu de. Enfin, d'habitude, il ose des choses assez controversées. Bon,
Ah,
bah
s'il
là.
avait foutu une grande claque dans la gueule à un gamin encore.
Oui, bah voilà, là je m'attendais à un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment. Je m'attendais à une chute, au fait. Et la chute n'arrive pas.
Bah si, la chute, c'est qu'il tape sur le bureau.
Ah oui, c'est vrai, bah tu vois, j'ai même oublié.
Il tape sur le
Tellement,
bureau, ouais,
tellement à la
voilà.
fin, déjà à 2 minutes, c'était trop long pour moi. Je me suis dit, ouais, ok, d'accord, il annonce ses projets, ok.
Il séquestre les enfants, en fait, c'est tout. Non, non, c'est un peu, franchement, c'est un peu moisi, quoi.
Donc, enfin, rien de transcendant, rien qui m'aura marqué là-dedans. Je sais pas. Peut-être qu'il y a un message caché qu'on n'a pas vu, mais bon.
Je ne crois pas, non. C'est juste l'énumération des projets qui, si certains ont l'air très intéressants, on attendra de voir pour juger. Parce que c'est Millar,
Et puis on attendra de juger aussi pour voir.
quoi.
C'était histoire de dire un truc qui n'a aucun sens comme d'habitude et de passer peut-être au
Au
review.
review, effectivement, oui, comme ça, on n'a pas besoin de faire de transition, on n'a pas besoin de chercher.
Non.
C'est très pratique. Donc les reviews de la semaine, eh bien, je vais commencer par le Villains for Hire numéro 4.
Ah,
Le
carrément,
dernier.
donc il y a pas de double, on fait pas de double review. Ben non, parce qu'on n'a
Et
rien
ben
lu.
non. Et non,
Peut
on n'a
pas.
rien lu en commun. Enfin, si un petit peu, mais. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Le Villains for Hire 4, donc qui est la dernière partie de la mini-série. Dee Haney au scénario, donc Dan Abnett et Andy Lanning, bien sûr. Et Renato Harlem au dessin.
Ouais.
Bah, on s'attendait à une fin explosive et c'est pas manqué, ça pète de partout, ça va dans tous les sens. Toute cette espèce de montée en puissance qu'on a eue avec ces retournements de situation, ces personnages qui se trahissent les uns les autres, et le fait que Misty Knight bossait avec des vilains au lieu de bosser avec des héros, en ayant complètement changé le concept Heroes for Hire, qui allait tuer Paladin dans le dernier épisode, enfin,
Ah oui,
voilà,
carrément, mais là, tu
c'est...
me spoiles pas mal, là. Attention.
Ah oui, mais je fais attention à ce que je dis, t'inquiète pas. Tout est contrôlé, tout est maîtrisé.
Et alors, c'est expliqué tout ça ou pas?
Eh bien tout ça, oui, va être complètement expliqué. Alors déjà, on commençait à avoir des réponses à la fin du 3 et on finissait sur un cliffhanger. On se demandait mais comment c'est possible et pourquoi. Et là, tout va être expliqué et il va y avoir une bonne résolution. Et franchement, ben, j'étais pas convaincu par le concept au départ. Je me suis dit pourquoi changer ce concept de Heroes for Hire en Villains for Hire, c'est un peu facile. Misty Knight retourne sa veste. Alors l'a-t-elle réellement retournée ou pas? Eh ben justement, vous aurez la réponse dans ce dernier numéro. Moi, j'ai trouvé ça très fun. Il y a vraiment, comme j'ai dit, des retournements de situation monstrueux, des gens qui se plantent des couteaux dans le dos. En même temps, quand on travaille qu'avec des vilains, on va s'attendre à autre chose. Mais non, c'est bien écrit, c'est propre, c'est fun, ça pète dans tous les
Ça me
sens.
rappelle un peu le concept de Thunderbolts. Il y avait toute une période, je crois que c'était à l'époque de Deagle, où tout le monde se plantait des couteaux dans le dos, où c'était vraiment.
Mais c'est un peu ça, en fait. C'est
Ouais.
un peu ça, quoi. Et
Mais alors, est-ce que ça a un rapport Misty Knight avec ce qui lui était arrivé tout au début de Heroes for Hire, du relaunch?
peut-être.
D'ailleurs, quel relaunch? D'ailleurs, quel relaunch? C'était vachement bien. Et puis, bah, finalement, ça a
Ben,
disparu, hein, c'est ça.
en fait, pour moi, c'est vraiment un bon moyen de boucler la boucle.
Ouais.
Donc, tu as un peu la réponse à ta question, en quelque sorte. Et ça fera vraiment, je pense, un bon petit TPB, quoi. Ben, je vais pas dire que c'est un bail parce que c'est le dernier numéro et quiconque n'aurait pas acheté la série dès le départ, ça sert à rien d'aller prendre celui-ci. Mais à ce moment-là, attendez le TPB, ça fera une bonne petite lecture, une bonne petite série en 5 parties finalement, parce qu'on a eu un numéro 0. Point 1. J'ai toujours rigolé. Pardon. Et non, ce sera très sympa, quoi. Puis bon, on finit sur une image qui, voilà, je trouve, a des conséquences.
Ok, d'accord.
Donc non, très très bon. Bye pour ceux qui ont déjà pris le début. Le dernier épisode est excellent. Et puis pour les autres, attendez le TPB et prenez-le. Moi, j'ai vraiment vraiment trouvé ça sympa.
Ok, ben écoute, dans les trucs sympas, je vais peut-être continuer du coup, enchaîner
oui.
sur un autre Marvel. Enfin, peut-être la lecture, franchement, de la semaine en ce qui me concerne, peut-être même du mois, c'est le Avengers Children's Crusade numéro 9, donc sur 9.
Ah, le dernier.
Bah ouais, le der des der. Alan Enberg au scénario, bien sûr, Jim Chung au dessin, et Marc Morales, je crois que c'est son prénom. Oui, c'est ça, à l'ancrage. Bon, bah alors, écoute, voilà, là encore une fois, la boucle est bouclée. Les intrigues trouvent une conclusion assez logique. Et puis bon, bah, il y a quand même quelques surprises. C'est pas mal du tout. Mais encore une fois, ce qui est un peu dommage, c'est que, à mon avis, ça aura pas grande conséquence tout ça.
Ah, finalement, ça aura
finalement.
Pas été
non.
Le build-up moment, comme on dit.
Bah non, mais de toute façon, ça m'étonne pas.
Mélanger français-anglais, j'aime beaucoup. C'est le build-up moment.
Oui, j'ai remarqué que dernièrement dans les Comic City tu faisais pas mal de Vandamme.
Ouais, enfin ça passe ce côté j'amène à AVX comme
bah non,
tu
non, non, mais non, non, justement, mais enfin je l'espérais pas tellement parce que de toute façon je me doutais que tout ce qui était écrit par Alan Enberg, vu qu'il fait pas partie des grands architectes de Marvel, ben voilà, ce serait un petit peu à part. Non, malheureusement, j'ai l'impression que tout ça, c'était qu'une grosse parenthèse. Très agréable, mais voilà, ça ne va pas changer grand-chose.
Oserais-je une longue parenthèse, parce que c'est vrai que le problème, c'est que déjà c'est une mini en 9 qui est sorti tous les 2 mois.
Ouais.
En plus, si mes souvenirs sont bons, il y a eu un petit peu de retard.
Ouais, bah elle a commencé, écoute, en juillet ou en août 2010.
Aïe aïe aïe.
Donc ça fait un an et demi.
En même temps, c'est prévu pour 18 mois, mais je crois qu'il y a eu un moment où il y a eu un petit mois de retard. Ou c'est peut-être moi qui confonds avec une autre série, hein, je ne sais plus.
Je sais plus, mais enfin voilà.
C'est vrai que ça paraît long, quoi. Une fois tous les 2 mois, ça paraît long.
Ouais. Mais en même temps, c'était tellement bon.
Ouais, mais putain, attendre 2 mois pour des cliffhangers comme ça à chaque fois.
Alors là, ils arrivent à resituer l'histoire dans un contexte marvelien, hein, c'est-à-dire que on voit un petit peu où ça se situe par rapport aux autres événements, par rapport à Fear Itself, etc., etc. En fait, cette histoire, ça s'est situé il y a des mois déjà. Bon, bah c'est assez bien replacé dans le contexte. Qu'est-ce que je peux dire? Un petit peu déçu, voilà, par le fait effectivement que il y aura pas vraiment de suite à ça, à mon avis. Ça retombe un peu à plat, même si la fin est logique et qu'il y a quand même quelques bonnes surprises. En ce qui me concerne, quand même, c'était l'une des meilleures séries Marvel et l'une des meilleures lectures Marvel des derniers temps, quoi.
Non, moi j'ai bien aimé aussi, hein, franchement. Je l'ai pas lu celui-ci encore parce que j'ai 2-3 numéros de retard.
Et puis oui, comme tu dis, il est clair que c'est une sorte d'AVX light, mais peut-être mieux écrit que ce que sera AVX. Pour moi, ce qu'a fait Enberg, c'est vraiment ce qu'aurait pu faire Jeff Jones. Pour moi, c'est quasiment du. J'ai l'impression de lire du Jeff Jones, quoi, tu vois, sur du Marvel. Voilà. Il y avait ce côté épique avec énormément de personnages. De très bons retournements de situation, très bons cliffs à chaque épisode. Non, franchement, c'était super bon. Hein. Je conseille vivement la lecture de cette série à tout fan Marvel.
Donc encore une fois, un très bon TPB au final.
Un très bon TPB et puis bah un bail absolu. Hein. De toute façon, c'est ce que j'ai lu de meilleur ce mois-ci, à mon avis, facilement. Enfin, pour le moment, ce n'est qu'au début du mois de mars.
Ok, très bien. On va faire un petit détour du côté de chez Boom Comics.
Mmh.
Dont on parle pas souvent, c'est vrai. Avec la sortie d'un numéro 1 d'une mini-série en 4 qui s'appelle Superbia.
Ouais.
C'est écrit par Grace Randolph et dessiné par Russell Dauterman. Donc vous aurez deviné, hein, bien sûr, Grace étant une femme. Alors c'est marrant, ça sort la semaine de la Journée internationale de la femme.
D'accord.
Mmh. Faut-il y voir un signe écrit par une femme et surtout le pitch. Puisque le pitch, c'est ni
plus ni moins... C'est la sœur de Superior.
Ah non, pas du tout. Le pitch, c'est ni plus ni moins que Desperate Housewives chez les super-héros.
Ah, mais c'est quand même drôle.
Et donc, en gros, ça se passe dans un petit quartier, hein, de façon très Desperate Housewives, où dans ce quartier, enfin dans cette rue, en fait, en quelque sorte, ne vivent que des super-héros. Les super-héros de l'équivalent de la Justice League. Hein.
D'accord.
Et bien sûr, on a, alors, c'est le classique archétype des super-héros avec son Superman, son Batman, le Green Lantern, etc., etc., quoi.
Mais ils vivent tous dans la même rue, quoi.
Mais ils vivent tous dans la même rue, justement.
C'est une sorte de quartier comme à Hollywood avec le quartier des stars, etc. Là, c'est le quartier des super-héros, quoi.
Exactement. Alors, bien sûr,
Ouais.
Ils y vivent de manière un petit peu cachée. Leur quartier général est sous terre dans ce quartier, en fait.
Ouais.
Et donc, on va suivre en même temps les super-héros et plus principalement leur épouse ou époux suivant le super-héros qu'on a, puisqu'on a par exemple l'équivalent d'une Wonder Woman avec un mari qui est complètement soumis. On a le Ouais, voilà, qui est soumis aux caprices un petit peu de sa femme, parce qu'elle est un
Ouais.
petit peu tarée.
Ouais.
On a l'équivalent du Superman qui est avec une ancienne,
Journaliste.
non, une ancienne super vilaine, en fait.
Ah, d'accord.
Et bon, il va y avoir pas mal de monde comme ça, et l'histoire
Est-ce
va
qu'il y a une sorte de
commencer.
Batman, alors?
Oui, bien sûr, il y a l'équivalent d'un Batman.
Ça, c'est drôle. Il est célibataire.
Ah non, non, du tout, il est marié.
Ah bon, d'accord.
Et justement, c'est un des problèmes. Enfin, c'est que, en plus, enfin, c'est très Desperate Housewives parce que chaque maison comporte son lot de secrets,
Oui, bien sûr.
finalement. Je vais pas tout révéler, mais
Enfin,
voilà,
c'est marrant pour moi,
certains ont
ouais, ça
des problèmes de
m'intéresse.
drogue, certains ont des problèmes d'adultère. Enfin voilà quoi, c'est. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était sympathique. Alors, ça ne révolutionnera pas le genre de la caricature de super-héros. C'est peut-être même un peu trop caricatural, en un sens, puisque on a clairement tous les archétypes classiques, hein, comme je dis, on a un Superman, l'équivalent d'un Green Lantern, un Batman, et on a aussi un Captain America avec son sidekick qui a vieilli, qui est donc ni plus ni moins qu'un Bucky. Et l'histoire commence quand ce Bucky rejoint cette fameuse l'équivalent de JLA, hein, en gros. Et donc il vient s'installer dans ce quartier avec sa femme, avec qui il vient juste de se marier. Et on se rend compte que donc chacun a ses petits secrets, mais au-delà de ça, il y a une plus grosse histoire qui est mise en place. Moi, j'aime bien. Franchement, j'ai trouvé ça sympa. Même si ça ne révolutionnera pas le genre. C'est sûr, on n'est pas au niveau d'un Alan Moore, au niveau de la parodie des super-héros. Enfin, en tout cas, peut-être pas. Le mot parodie, peut-être un peu fort, mais en tout cas, de l'analyse de super-héros. Là, il faut plus le prendre comme un truc fun et
Mais
sympa à lire, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un bail.
en
Puis
tout
bon, c'est
cas,
mini en 4, quoi. C'est pas très long.
mais en tout cas, non, mais le pitch est quand même intéressant. Enfin, moi, ça m'interpelle, quoi. J'ai bien envie de découvrir ce truc.
Ah, puis il y a des moments très fun hein, dedans. Je veux dire, bon, même si on peut les deviner en réfléchissant un tout petit peu, puisque on a déjà vu ça plein de fois. On a déjà vu ça dans The Boys, on a vu ça dans
Dans Desperate Housewives,
Authority,
si on a
dans.
regardé.
Ah non, je parle simplement au niveau des principes des super-héros.
Oui, bien sûr.
Les travers de ces super-héros-là, on les a déjà vus partout
Mais
ailleurs. Mais
ouais.
ce côté-là, dans un petit quartier réservé aux super-héros, c'est sympa. Il y a un mélange aussi un petit peu avec. Pour ceux qui connaissent la série The Unit, qui était une série sur un groupe secret militaire et leurs femmes qui vivaient là aussi tous dans le même quartier, on a un petit peu cette ambiance-là aussi, quoi.
Et puis on peut aussi imaginer des scénarios type super vilain, ex-super vilain qui vient s'installer dans la maison d'en face.
C'est possible, mais généralement, enfin, c'est un quartier qui est protégé, justement, qui a été mis en place par
Ah oui, mais
celui qui a
ex-super vilain
commencé.
repenti, bien sûr.
Ben, c'est le cas avec la femme de l'équivalent du Superman, par exemple.
Par exemple. Non, enfin voilà, non mais moi ça m'intéresse, là tu m'as vendu la série, là, c'est
Là,
fascinant.
franchement, moi j'ai trouvé ça très sympa, mais comme je dis, c'est pas révolutionnaire, mais ça remplit le job, quoi. C'est il y a le côté Desperate Housewives qui est un petit peu inédit entre guillemets.
C'est un nouvel ongoing ou c'est
Non,
juste
c'est
une
une mini
mini?
en 4.
Ah
Mini en
d'accord, oui,
4, donc en
c'est vrai que
plus
ça
ça
se
engage
tient.
pas beaucoup. Et si ça va bien, je pense qu'il y aura peut-être d'autres mini par la suite, c'est possible. Donc ouais, pour moi un bail, quoi.
Ok. Ben écoute, alors je vais passer chez DC, du coup, avec le Swamp Thing numéro 7, déjà 7 épisodes. Toujours Scott Snyder, évidemment. Yannick Paquette est de retour au dessin, tant mieux. Et du coup, bah on a la renaissance de Swamp Thing, tout simplement, durant tout l'épisode. C'est toujours très psychédélique, très torturé et très bien écrit. Bon, bah on est à fond dans la psyché d'Alec Holland et qui fait face à son destin et qui s'apprête à redevenir le Swamp Thing pour s'envoler vers vers de nouveaux horizons, j'ai envie de dire, puisque enfin voilà, faut que tu vois la fin.
Oui, du pouce des ailes. Comment tu dis ça?
Ben, je vais te le dire, il lui pousse des ailes. Il s'envole effectivement à la fin de. Enfin voilà, c'est pas un gros spoiler, on peut le dire. C'est super bien mis en image par Yannick Paquette, très inspiré, qui nous fait vraiment des compositions florales, j'ai envie de dire.
Tellement.
Voilà.
Tel un bon fleuriste.
Oui, non, mais c'est ça. C'est, enfin, il y a un petit peu des fleurs pourries par moment. Mais voilà, c'est très recherché, comme d'habitude. Et aussi toujours très agréable à lire, quoi. Même si l'épisode de ce mois-ci est très très torturé, donc du coup on est vraiment, enfin je veux dire, on n'est pas dans le type d'épisode qu'on a pu avoir précédemment avec beaucoup d'humains, quoi. Là c'est, on est totalement dans le surnaturel. Mais bon, c'est très bon, quoi. C'est franchement un bail, un titre à suivre assurément. Ça fait partie des rares titres d'essai du relaunch qui vraiment m'ont convaincu et qui m'ont jamais déçu jusque-là.
Ok. Bon ben, je vois pas comment mieux le vendre.
Non, ben voilà, je pense que tout est dit. En même temps, il n'y a
On
pas,
dira
pas grand-chose à
pas
dire,
que
hein. Il
tu
faut le
touches des
lire, voilà, c'est
commissions.
tout.
On dira pas que tu touches des commissions à chaque fois
Non,
que quelqu'un
non,
achète
non.
un numéro de
Bien
Swampfire.
sûr, je reçois des lots de gazon, en fait.
Pour ton jardin.
Pour mon jardin que je n'ai pas.
Oui, pour jardin balconnier.
Oui, voilà, c'est ça, ouais. On va dire ça comme ça.
N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie quand même?
Surtout balconnier, non, c'est une terrasse, donc un jardin terrassier, on va dire.
Allons-y gaiement. Venom 14. Alors j'avais dit la semaine dernière que je parlerais un petit peu plus en détail de cet event qui a eu lieu dans les pages de Venom. Donc Venom 14 est la conclusion de cet arc Circle of Four.
Ouais.
Donc c'est écrit par Rick Remender, Jeff Parker et Rob Williams, avec Tony Moore au dessin. Et alors déjà, je dois dire un gros coup de chapeau
Ah,
pour
tu dois
cet
dire
event.
un gros coup de chapeau.
Oui, oh. Oh non, mais me reprends pas comme ça, parce que tu vas pas arrêter là. Je sens que tu vas pas arrêter puisque je vais dire que des conneries en plus. Je dois les féliciter, ça te convient?
Oui, très bien, très bien. Félicite-les.
Oui, non, je félicite l'équipe créative d'avoir tenu sur un event comme ça, puisque ça a commencé donc dans le Venom 13, puis le 13.1, point 2, point 3, point 4 et le Venom 14. Tout ça chaque semaine. Et il n'y a pas eu un retard.
Ouais. Bon, j'en ai lu quelques parties, par contre. Bah, tu vas en parler très vite, mais le scénario, c'était pas non plus un truc super compliqué à mettre en place, quoi.
Bah écoute, moi franchement, j'ai vraiment bien aimé. Déjà, il y a cette petite variation sur le thème des New Fantastic Four. Un truc assez classique avec Wolverine, Hulk, Ghost Rider et Spider-Man. Donc là, c'est Venom, Red Hulk, X-23 et la nouvelle Ghost Rider. Donc il y a déjà ce petit côté appel à une équipe un petit peu de rêve. Et puis c'est bien amené, puisqu'on a ce revirement de Black Heart qui va tout faire pour essayer d'amener l'enfer sur Terre, et qui va finalement réussir en mettant l'enfer sortir à Las Vegas. Alors grâce à l'intervention de certains personnages, ça va être un petit peu contenu, bien sûr, mais voilà, il va y avoir des conséquences à cet event. Alors quand est-ce qu'on les verra ça je ne sais pas, ce sera sûrement pas le mois prochain, mais il y aura des conséquences et il y a de fortes chances qu'on retrouve donc cette équipe dans une future histoire. Sera-t-elle écrite par Rick Remender ou est-ce qu'on la verra seulement dans 10 ans? Ça,
En même
malheureusement,
temps,
voilà.
c'est des personnages pour quelques-uns qui sont orphelins, quoi, qui n'ont plus de titre maintenant.
Eh bien, oui et non, puisque on nous parle d'un retour du Ghost Rider bientôt,
D'accord.
un retour d'X-23 ce mois-ci. Alors, dans une série régulière, dans une mini-série, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais
Ah,
apparemment, c'est ce qui a
d'accord.
été annoncé.
Ok.
Donc voilà, donc franchement, en plus, on a une explication de pourquoi Venom va rejoindre les Secret Avengers,
Ah
qui
oui.
est faite dans ce numéro. Au moins, ça mérite d'avoir une explication. Et pas, tiens, je te mets là-dedans parce que c'est Rick Remender qui reprend le scénario.
Ouais.
Et puis, donc, comme je disais, le fait qu'il y aura peut-être une suite. Quelque part, moi pour moi, j'ai trouvé que c'était un bon event, un truc assez contenu finalement, même si avec 6 épisodes sur l'équivalent d'un mois, non 5 pardon, non 6, 6, j'avais raison au départ, 6 épisodes sur l'équivalent d'un mois, ça fait un mini crossover avec plusieurs tie-ins quoi, mais voilà, bon event quoi, bon crossover et ça pète de partout, il y a vraiment ce sentiment de fin du monde, on se dit, en sachant qu'en plus ce sont des personnages un peu plus mineurs, il peut y avoir des pertes. Donc voilà, bon, je ne dirais pas s'il y a des pertes ou pas d'ailleurs, justement, c'est tout
D'accord, ok.
l'intérêt.
Bon
Mais
bah alors t'as été conquis, très
ah,
bien.
moi j'ai été conquis, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture et j'ai pris un bon pied avec cette série, quoi. C'est over the top, mais c'est ce qu'on attend d'une petite série comme ça, hein, justement.
Ok, d'accord. Bon bah alors je vais continuer avec un truc bien moins convaincant, malheureusement. Le Action Comics numéro 7, de Grant Morrison et de, comment s'appelle-t-il, Grant Morales? Non, Rax Morales.
Rax, oui.
Rax Morales, bien sûr. Donc, bah écoute, c'est la suite, hein, du coup, de, j'allais dire, de ce qu'on a eu avant, pas du tout, puisqu'on a eu un interlude de deux numéros. Durant lesquels Grant Morrison était revenu sur les origines de Superman.
Bon, ces deux épisodes d'ailleurs, je ne les ai pas lus. Moi, je m'étais arrêté au dernier avec Steel justement.
Ben moi aussi, je les ai pas lus. Donc, je sais juste que ça revenait sur les origines, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Bah là, il nous sert une histoire vraiment qu'on a déjà lu 14 000 fois où Superman va affronter Brainiac.
Ben ça rappelle un petit peu le dernier arc qu'avait fait Jeff Jones sur Brainiac.
Ouais, avec effectivement une partie de la ville mise en bouteille. Il y a une scène assez surréaliste où Lex Luthor, Lois Lane, Jimmy Olsen et puis le fameux Glenn Morgan. Je sais même pas qui c'est Glenn Morgan exactement par rapport à la mythologie de Superman. Enfin bon, ils se retrouvent tous dans un bar en même temps.
Est-ce que c'est pas le gars qu'il avait chopé dans le premier épisode?
Si, mais on a l'impression au fait que, enfin, ils en parlent comme si on le connaissait depuis des années à travers la mythologie de Superman, qu'il était déjà dans des numéros des années 90 ou je ne sais quoi. Je sais pas. Bon, s'il y a des fans de vraiment hardcore de Superman qui savent, bah voilà, qui nous le disent. Donc, ben, y a une scène assez surréaliste où ils se retrouvent tous dans le même bar, au même endroit. Enfin bon, c'est assez, c'est du Morrison, quoi. C'est-à-dire que on comprend pas trop comment ça arrive, mais ça arrive.
Mais moi, ce qui m'a paru le plus surréaliste, c'est que tout le monde, enfin en tout cas Lois et Jimmy, sont ouais. maintenant au courant que c'est la faute à Lex Luthor.
Ouais.
Ça a l'air d'être pas très grave en fait.
Oui, oui, non mais voilà. Non mais à chaque fois on a l'impression que c'est un rêve, tu vois, les comics de Grant Morrison, ou plutôt un cauchemar par moment. Tu te dis mais les personnages ne réagissent pas normalement. Tu vois, ils ont des réactions assez bizarres aux événements. Bon, ok. Rax Morales.
Maintenant on sait comment Superman a récupéré son armure.
Ouais. Oui, bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. non mais il y a vraiment rien d'extraordinaire. On a mis Grant Morrison là-dessus juste pour mettre le nom de Grant Morrison sur les comics et vendre des comics. Mais honnêtement, il est en vacances, il ne fait rien, il ne propose rien de nouveau. Rax Morales, il démarrait bien. Là, bof, il y a des pages, c'est très correct, des pages où c'est vraiment pas terrible. Et puis on a un backup. Alors c'est toujours autour de Steel.
Alors le backup, moi je ne l'ai pas lu par contre.
Bah, t'as bien fait. Par Sholly Fish et Brad Walker au dessin. Alors autant Brad Walker, c'est toujours très très beau. Autant Sholly Fish là nous sert un scénario où c'est vraiment la bien-pensance incarnée. Il en arrive à la conclusion que il suffit pas d'un héros pour sauver une ville, mais c'est toute la ville qui est un héros en fait. Je sais pas comment dire ça, mais c'est.
Non, oui, non, mais j'ai lu la dernière bulle et ça m'a fait rigoler.
Oui, voilà, c'est vraiment,
pas dans
vraiment
bon sens.
On est vraiment dans le cliché absolu. Ouais. Le backup qui ne sert à rien. Non, mais attends, mais le style, honnêtement, c'est comme Cyborg. C'est bien de mettre des héros black dans les comics, mais par pitié, qu'il leur donne du charisme, qu'il leur donne des histoires intéressantes. Là, c'est forcé, quoi. L'un comme l'autre. C'est chiant. T'as juste envie que ces deux personnages disparaissent. Je suis désolé, hein. C'est pas parce que je les aime pas, j'ai rien contre eux, mais c'est juste que là, la manière dont ils sont écrits, c'est pas passionnant. On s'en fout complètement.
On remarquera que tu n'aimes pas les personnages black, hein, donc.
Voilà. Non, mais c'est, justement, je veux pas que ce soit.
Justement, je fais exprès, tu vois, de bien retourner le couteau dans la plaie, de rajouter un peu de sel dessus.
Ouais, non mais sur là-dessus, ces deux personnages sont totalement insipides. En tout cas pour le moment, et il y a rien d'intéressant avec eux, quoi. Je veux dire, bon, on se fait chier. Et non, franchement, ce numéro est, y a rien d'intéressant. Donc pour moi, c'est un énorme pass. J'en ai marre de me taper des cures pareilles.
Mais écoute, je viens de faire une petite recherche en même temps. Glenn Morgan est apparu dans le Action Comics numéro 1 de 2011.
D'accord. Bah alors, il est jamais apparu avant. Okay.
Non, c'est un personnage créé par Grant Morrison.
Ok, ok. Non, parce que c'est dans le Superman de Kurt Busiek. Mais alors, à mon avis, ils l'ont utilisé. Par la même occasion.
Voilà.
Alors la ramification.
Il n'y a pas quelque chose qui t'a un petit peu choqué dans ce Superman-là, justement, notamment là, cette fameuse phrase de Superman qui dit « Guns are for sissies ». Donc, je traduis, hein,
oui.
Clairement.
Oui, oui.
Les flingues, c'est pour les tapettes. Mmh. Oui. T'as cette
Bah,
Ça te choque pas un peu que Superman, soi-disant cette icône, parle comme ça?
oui, bah, en même temps, là, c'est un Superman assez assez rentre-dedans, hein, depuis le début du relaunch. C'est un sale gamin, quoi.
Dans la version Action Comics, parce que dans la version George Perez, il était pas comme ça. Alors, on va voir ce que ça
Ouais.
va donner maintenant que ce sera plus George Perez au scénario, mais... Enfin, moi, je sais pas. Je trouve que pour un personnage aussi iconique,
Ouais.
c'est un peu... Voilà.
Ouais. En même temps, bon, c'est peut-être une manière maladroite de dire qu'effectivement, faut pas laisser, c'est pas bien les armes. Enfin voilà.
Ouais, enfin
Mais
voilà.
c'est très maladroit, effectivement.
Bon, ouais, j'ai traduit par tapette, on aurait pu traduire par petite frappe aussi, mais honnêtement, si, aujourd'hui, ça a plus la traduction générale de tapette, quoi. Donc, je sais pas, enfin, je sens que les associations anti-homophobes vont tomber dessus en disant oui, Superman est homophobe maintenant, machin. Bon, faut peut-être pas y voir ça, mais je pense que le choix des mots aurait pu être fait un petit peu mieux. Alors, ok, Grant Morrison est anglais, mais enfin, quand même. Je trouve que c'est presque de la provoque gratuite, quoi.
Bon, en tout cas, cet
Est-ce pas un
épisode.
moyen de faire parler un petit peu plus de Action Comics qui finalement n'a peut-être pas le succès espéré, mais si pourtant il est bien placé dans les ventes? Je sais pas.
Non, mais il y a vraiment de sérieux problèmes dans cet épisode-là, parce que là, je regarde à nouveau les dessins de Rax Morales. Bon, par exemple, il y a un bras de Superman là, qui casse une vitre, qui est juste, mais abominable. Enfin, je sais pas, on a l'impression qu'il a un morceau d'os, puis un énorme morceau de chair ensuite. Je sais pas, c'est. Il y a des têtes de Loïs qui fait vraiment peur. C'est pas terrible du tout. Non, c'est un méga pass pour moi. C'est
Bah
franchement, faut
pour
arrêter la
moi
blague.
aussi c'est entre le check-it et le pass quoi, c'est
Ah non, moi c'est carrément méga pass parce que c'est quand même Action Comics, c'est quand même Grant Morrison, c'est quand même l'un des New 52. C'est vraiment l'événement et nous servir ça, y a rien quoi. Y a rien. C'est
bah,
plat,
je
y
me
a
suis
rien
un
de
peu ennuyé
nouveau.
aussi hein. C'est pour ça que je dis entre le check-it et le pass quoi. Je sais pas combien de temps ça va durer encore cette histoire.
Ah, moi je serais pas surpris qu'il arrête un petit peu à la manière d'un JMS, il arrête assez vite quoi finalement.
Je pense qu'il ira jusqu'au 12 et puis après, bye bye quoi.
Ouais.
Puis bon, ça commence à être casse-couille d'avoir une série qui se passe il y a 5 ans et une série dans le présent quoi.
Oui, le concept, je suis pas fan non plus.
Est-ce que c'est pas la preuve aussi que Superman n'est plus capable de soutenir 2 à 3 titres? Qu'il faut vraiment une telle différence entre 2 titres Superman pour que ça se vende?
Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, là, les deux ne me passionnent guère. On passe à autre chose, du coup?
Ouais, on va passer à autre chose. On va aller encore. Bah, je vais rester tiens dans le giron de chez DC avec la JLI, donc la Justice League International numéro 7. Toujours Dan Jurgens au scénario, Arnaud Presti au dessin et Matt Ryan à l'ancrage. Donc
Une série que j'ai pas lue depuis le début.
à la
Enfin,
fin
que
du.
j'ai lu que le premier, quoi.
Ouais, bah ouais, je crois que ça t'avait pas trop accroché. Hein. Le petit côté un
Sans
peu old
plus.
school de la façon de raconter de Dan Jurgens notamment.
Oui, sans plus. Voilà, ça m'avait pas particulièrement amusé. Je m'attendais à un truc plus fun et puis voilà.
Alors, moi je franchement ça me plaît parce que il y a ce côté old school qui comme on dit comme on vient de dire justement avec Action Comics on ne retrouve pas le forcément le Superman alors entre le Superman iconique et le Superman un peu moderne il peut y avoir une limite voilà enfin je sais pas on peut trouver un petit juste milieu là j'ai vraiment l'impression de retrouver pas les anciens personnages puisque bon ils font partie de ce relaunch et que voilà mais ça s'en approche quoi et ce petit côté old school qui fait un peu DC à l'ancienne quoi et c'est ça qui me plaisait pour ce numéro-là mais je vais être un peu plus mitigé alors ça me plaît toujours autant le seul truc c'est que je ne vois pas quelle direction veut prendre Dan Jurgens avec sa série j'ai l'impression qu'il se cherche et ça me perturbe puisque à la fin du numéro 6 l'équipe était enfin sanctionné par les Nations Unies, on avait la présentation de l'équipe et une bombe explosait, puisqu'on avait depuis le départ de la série aussi cette deuxième histoire avec des gens qui les menacent à coups de bombe. Là, on est reparti sur ce plot-là, hein, fini le plot avec l'histoire des titans extraterrestres, là, enfin des espèces de robots géants pour détruire le monde.
Qui m'avait pas passionné d'ailleurs.
Et c'est le chaos, l'équipe va être très très mal en point, il va y avoir des pertes dans l'équipe. Et en gros, on a vraiment un épisode assez dépressif quand même, puisqu'on va voir les super-héros de la JLA, et notamment Booster Gold, vraiment face au désespoir d'une telle situation. J'ai un peu l'impression que C'est un peu la métaphore de, on a beau être des super-héros, face au terrorisme, on n'arrive à rien et il y a quand même des morts. Et c'est un peu le syndrome 9/11 encore, quoi.
Oui, d'accord.
Le 11 septembre.
Oui, non, mais merci.
Non mais oui, enfin c'est que oui, pardon, mais j'ai désolé, je préfère traduire pour les gens qui ne comprendraient pas. Voilà, et on les sent vraiment désemparés face à l'ampleur de la catastrophe. Et bien sûr, on voit que ce fameux terroriste travaille pour quelqu'un, on ne sait pas qui. Et on va avoir Batman qui va faire son Batman en essayant de partir à la poursuite de tout le monde. Booster qui va essayer de sauver des vies. Guy Gardner complètement à l'ouest. Enfin, et bien sûr, les Nations Unies vont réagir à cette maintenant troisième attaque sur eux de la manière la plus logique qui soit, en se
Ouais.
dire en disant bah arrêtez l'équipe quoi.
OK.
Donc c'est pour ça que je ne comprends pas où va l'histoire parce que on a passé le tout premier arc à essayer de construire l'équipe et de la faire travailler pour les Nations Unies et finalement au début du deuxième arc, au septième épisode, bah, les Nations Unies disent non non finalement non on veut pas parce que vous attirez trop de problèmes. Où est-ce qu'il va? C'est vraiment la question que je me pose, quoi. Donc, ce sera qu'un check-in pour cet épisode. Et puis bon, à la fin, on a un petit guest star d'un personnage qui sera là dans le prochain numéro. Une série qui ne vend pas très bien, bien sûr.
Batman.
Bah non, justement.
Non, non, mais justement.
Donc voilà, bon, donc un check-in.
Ok. Bon,
Mais
bah,
non.
ça m'a pas donné plus envie que ça d'y retourner, mais bon, on verra,
Mais moi
peut-être.
c'est vraiment check it parce que je sais pas où il va. Si j'avais une idée un peu plus, enfin si on comprenait un peu plus là où il essaye d'amener l'équipe, peut-être que ce serait un bail, mais en tout cas, pour le moment, c'est un peu difficile. Je crois que t'as plus rien toi par contre.
Mais oui, mais oui.
Donc je vais finir avec bah, deux histoires de chez Image.
Ouais.
Je vais commencer par le Manhattan Project
Que
numéro 1
j'aurais bien lu d'ailleurs, que si j'avais eu le temps.
de Jonathan Hickman et Nick Pitara. Alors, bah, c'est du Jonathan Hickman, c'est-à-dire que on ne comprend pas grand-chose, honnêtement.
D'accord.
Enfin, si, on comprend, on comprend. Alors, l'histoire, c'est une espèce de monde dans lequel on se rend compte que le projet Manhattan, donc le projet qui a amené la bombe atomique grâce à Oppenheimer, ou
Ouais.
grâce ou à cause, hein, ça dépend des visions, finalement ne servait pas qu'à la bombe atomique. La bombe atomique, c'était juste un prétexte pour que le gouvernement leur foute la paix et qu'ils les laissent travailler. Donc, en leur donnant une arme de destruction, ils sont contents et pendant ce temps-là, ils peuvent faire autre chose. Et on se rend compte que ce qu'ils font derrière, dans le Manhattan Project, ce sont vraiment des sciences complètement bizarres. Ils vont miner dans des dimensions alternatives, ce genre de choses, avoir des minéraux qui n'existent que là-bas pour d'autres inventions.
Ouais.
Bref, et on va suivre Oppenheimer qui rentre tout juste dans ce projet, au début du numéro. Et on va aussi en savoir un peu plus sur Oppenheimer. On va se rendre compte qu'il est né avec un jumeau. Et bien sûr, c'est le concept du jumeau
Jumeau
maléfique.
maléfique. Ah
Voilà.
oui.
Autant lui est
Ah.
doué en science, voilà, c'est le presque enfin, la bonté incarnée, quoi. Une grosse tête, etc., qui pense à essayer d'améliorer les choses et à faire des inventions pour aider les gens.
Un ami de Philippe Bouvard.
Et son frère, qui est une sorte de serial killer, en quelque sorte, qui mange les gens pour récupérer leur âme, etc. Et bien sûr, le truc le plus logique. Alors, je vais pas le dire là pour ceux qui n'auraient pas, parce que c'est vrai qu'en le lisant, on s'en rend compte. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je vais laisser un petit peu le twist à découvrir soi-même à la lecture du comics, mais
Oui.
on s'attend au truc dès le départ. Effectivement, c'est ça, mais il va pas nous faire quatre numéros pour nous faire dire ah ben en fait c'était ça qu'on avait deviné dès le départ. On le sait dès la fin du premier épisode. Mais il y a encore autre chose derrière.
Y a une sous-couche.
Ouais, voilà, encore plus bizarre. Donc là c'est pareil. C'est un bon check-it. Un gros check-it. J'irai pas jusqu'au bail parce que on comprend pas tout.
Ce sera en 4? Non?
Je ne sais plus si
Non?
c'est en 4 ou pas.
Ou est-ce que c'est illimité?
Je ne sais plus du tout. Honnêtement, je ne sais plus. Sur la cover, c'est pas marqué. Je crois que c'est une mini-série, mais je voudrais pas trop m'avancer parce que j'ai peur d'y rien.
Et puis si tu t'avances trop, t'arrives dans un mur.
Oui, voilà, où je tombe de ma chaise, par exemple. Parce que je ne fais pas le podcast debout. Hein. Tu m'excuseras. Ça n'a absolument aucun intérêt ce qu'on raconte.
Et tiens, mais alors par contre, niveau dessin, t'en as pas parlé. Je te disais qu'en regardant comme ça, moi je pensais à du Frank Quitely mixé avec du Scott Collins.
Ouais, il y a un côté Frank Quitely, ouais, c'est sûr.
Scott Collins, je le trouve pas, non?
Bah, c'est vrai que moi je vois principalement le gros côté Frank Quitely. Honnêtement, ça, enfin, ça
Le
saute aux yeux.
Maléfique, Cassandra Nova.
Non, mais s'il te plaît, ne me rappelle pas cette horreur.
Non, mais en plus, ça rappelle ces épisodes, puisque...
Mais c'est, oui, c'est vrai qu'il y a un côté Scott Collins aussi, quand même, un petit peu. Hein,
Ah, quand même.
Notamment à cause de la colorisation, et puis des gros traits. Mais, enfin, bon, voilà, bon, c'est intéressant. Reste à voir où ça va. Et ce que j'ai peur, c'est que c'est le syndrome Hickman sur Red Wing, c'est-à-dire qu'il faille tout lire pour arriver à comprendre. Ça m'ennuie un petit peu. Mais bon, à part ça, non, c'est pour ça que je dis un bon gros check-it, quoi. Le seul truc, c'est que la plus grosse surprise, bah, on la devine au bout de 4-5 pages. Même s'il y a autre chose derrière, on la devine assez rapidement.
Oui, enfin, ce que tu voulais dire, c'est surtout on a besoin d'attendre la fin pour savoir si c'est bien, quoi.
Oh, ouais, enfin, il y a des idées intéressantes de développer, hein, comme d'habitude, avec Hickman, vraiment des sciences bizarres, toujours très axées sciences, hein, de toute façon. Après, à voir où ça va, quoi. Je reste sur le gros check-it.
Ok. Et puis ton dernier.
Le dernier, c'est donc encore une nouvelle série chez Image qui s'appelle Hell Yeah, donc numéro 1.
Avec Steve Austin.
Écrit par Joe Keating, ou Keating, je ne sais pas. Et dessiné par, alors j'espère que je vais y arriver, André Simanovitz.
Bien sûr.
J'espère que j'ai bien prononcé. Et ça, ça m'a par contre vraiment super plu.
Ah, d'accord.
Ouais. Il y a plein d'idées dans ce truc-là. Alors, encore une histoire sur des super-héros, bien sûr, une espèce de Justice League déformée, en quelque sorte. Sauf que là, on va suivre un certain Benjamin Day, qui est le fils... Alors, ça va être un petit peu dur à raconter, qui est le fils d'un marine,
ouais,
qui a été sauvé lors de la première guerre du Golfe par la Justice League, mais c'était surtout la première fois où cette Justice League apparaissait. Et ils sont venus sauver ce marine, et ils ont mis fin à la guerre du Golfe comme ça, et ensuite, ils ont décidé de rendre le monde meilleur. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont allés reconstruire des habitations en Afrique, ils ont aidé les gens à se développer, enfin voilà quoi, c'est vraiment le super-héros qui change la Terre.
Ouais, ok.
Depuis qu'ils sont apparus, bah, des enfants commencent à naître avec des pouvoirs, et ce Benjamin Day que l'on suit est un enfant à pouvoir. Il va dans une école spécialisée, parce qu'il y a une école spécialisée pour les enfants avec des super-pouvoirs.
D'accord, ça fait penser à Rising Stars là un petit peu là.
Un petit peu, ouais, un petit peu dans le concept.
Le côté enfant qui naît, c'est que des pouvoirs, école pour enfants surdoués, machin, enfin bon, ok.
Et bah, le truc, c'est que ce Ben, puisque tout le monde l'appelle Ben, hein, ce Ben n'est pas un gamin qui apprécie sa condition d'être un enfant assez célèbre, puisque bah, son père est quand même une des personnes les plus célèbres, puisqu'il a été le premier sauvé par cette fameuse ligue. Je me rappelle plus d'ailleurs le nom de cette équipe.
Le premier bleu sauvé.
Et du coup, il va passer son temps à se bastonner en dehors de l'école, hein, bien sûr, mais avec des videurs à l'entrée des boîtes, tout ce genre de choses. Et donc, ça lui vaut un mauvais rapport dans son école, et notamment avec le principal.
Ouais.
Mais vu que c'est un enfant d'une célébrité, il a un petit peu les mains liées, il lui donne plutôt un avertissement là où il exclurait d'autres.
Ouais.
Donc, il se prend des remontrances par ses parents, même si son père est relativement cool avec lui. Et on va se rendre compte que bah, ses parents ne sont peut-être pas finalement ce qu'ils semblent être. Que lui, il explique aussi qu'il a un tatouage au niveau de la base du cou, un espèce de code-barre qu'il ne sait pas trop d'où il vient. Un jour, il s'est réveillé, il était là.
D'accord.
Il sait pas pourquoi.
Non, mais pas depuis sa naissance, quoi, un jour.
Non, mais pas depuis sa naissance. Normalement, d'accord, les pouvoirs s'acquièrent à la puberté. Et bah, lui, un jour, il s'est réveillé, il avait ce code-barre.
D'accord, ok. Ah, ce coup, il est devenu un produit Monoprix.
Voilà, il y a quelques explications supplémentaires, je vais pas tout révéler, mais c'est super intéressant. On sent qu'il y a de très bonnes idées pour la suite. Moi, franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai là, franchement, bonne surprise.
D'accord, ben, parce
pourtant,
que
le titre me faisait un peu sourire. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, je vois pas trop le rapport. Pourquoi il y est d'ailleurs?
Bah, pour le moment, on sait pas. Honnêtement, pour le moment, je sais pas.
C'est juste qu'il trouvait pas de titre, que voilà.
Mais non, okay, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant.
C'est marrant parce que Manhattan Project c'était plus attendu finalement cette semaine, et puis L.I.A. me semble plus intéressant aussi.
Ah ouais, non, franchement, une bonne petite lecture, on passe un bon moment à lire ça. Voilà, enfin, moi c'est tout ce que je demande, quoi.
Avoir ton truc à la Desperate Housewife aussi m'intéresse.
Ouais. Alors bon, voilà, le sous-titre de L.I.A. c'est Last Generation of Heroes, donc on verra ce que ça donne.
Ça
mais non, franchement, super sympa. Bon, par contre, les dessins sont parfois assez inconsistants, on a des têtes assez bizarres, des yeux qui tombent pas forcément bien en face. Mais bon, ça passe quoi.
Ok.
Ça passe. Les fonds sont relativement vides par contre.
D'accord. Bon, bah écoute, voilà, c'est du image, bon, il y a des choses assez expérimentales, mais du moment que le
Donc
scénario est
ça
bon.
reste au niveau du style de dessin, ça reste assez classique. Voilà. Je ne vous parlerai pas de la fin. Ce cliffhanger monstrueux qui vaut le coup, parce que là ça lance l'histoire totalement.
Ok, bon bah écoute, j'irai le lire certainement alors.
Non, franchement, moi, pour moi, c'est un bail, ça. C'est vraiment une bonne petite chose. Après, faut voir si la suite sera aussi bonne. Parce que des fois, on a des très bonnes idées, et on ne sait pas comment les mettre en forme par la suite, et ça tombe à plat. Voilà, ben, c'est tout pour cette semaine.
J'aime bien comment tu clôtures ça.
Non, mais
Une
bon.
semaine assez chargée finalement.
Ouais, et encore, on n'a pas lu. Enfin, moi, j'ai pas non plus lu tout ce que je voulais. Il y avait quelques autres sorties, hein, comme on avait la sortie du Fatal numéro 3, le Winter Soldier numéro 3 aussi. Premier numéro de la nouvelle mini chez DC Night Force, par Marv Wolfman, la reprise du titre qu'il a créé il y a de ça 20 ans.
Ouais, le Midnight, je sais plus quoi là. Non, pas.
Non, Night Force,
Night
tout
Force,
simplement.
c'est toujours appelé Night Force, c'est bien, très bien.
Midnight Sun, c'est chez Marvel.
Oui, t'as raison. Bah, je sais pas pourquoi je te dis ça.
On avait aussi la sortie de Ferrust, le spin-off de Fable,
Ah oui.
par Bill
D'accord.
Mingham et Phil Jimenez. Le premier numéro d'Age of Apocalypse, que j'ai pas eu envie de lire, honnêtement.
Non, voilà, c'est un petit peu tiré sur une corde.
Bah, il y avait quand même des choses intéressantes, hein, dans l'ère d'Apocalypse suite à la fin de l'arc
Ouais.
avec X-Force, notamment le fait que la plupart des résistants mutants se sont fait enlever leur pouvoir, mais bon. Ouais, ça m'a pas plus intéressé que ça, écrit par David Laffame en plus, Roberto Della Torre au dessin.
Ah mais David Lafamme, il a quand même fait des bons trucs. T'avais aimé la dernière fois ce qu'il avait
Ah
fait.
oui, non mais je dis pas, mais bon, enfin voilà, c'est Age of Apocalypse, c'était pas le truc qui m'attirait le plus cette semaine, quoi. Puis bon, on n'a pas malheureusement tout le temps de lire, sinon on ferait des émissions de 3 heures à chaque fois.
Et bien déjà, celle-là, elle est bien longue pour une émission qui devait être plus courte.
Oui. Bah, une petite heure et quart, quoi.
Ouais. Et non, mais enfin bon voilà, une semaine VO assez concluante en termes de nouveautés, on va dire. D'ailleurs,
Ouais, bah ouais,
faut
clairement.
essayer des nouveautés parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas dans le mainstream qu'on trouvera le meilleur du comics.
Exactement. Donc ouais, voilà, vous avez des bonnes petites choses à essayer du côté de chez Image, du côté de chez Boom. Et puis même, il y en a quand même toujours
Et
du
puis
côté de
même
chez DC et chez Marvel, hein,
du
maintenant.
côté de chez Swan.
Oh non, tu l'as pas faite quand même
Si,
cette
encore.
histoire-là, non.
Je me rappelle, j'avais fait il y a très longtemps. Mais...
Oh là là. Bon, ben, sur cette
voilà,
vanne
c'est.
moisie, on va dire retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter.
Ça pourrait même servir de mot de la fin, puisqu'il y a longtemps qu'il n'y en a pas eu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on pense plus à le faire.
Bah, c'est surtout qu'il faut en trouver. Des nouveaux, des mots de la fin.
Bah, honnêtement, moi, j'y pense plus.
Oui.
Et puis, faut dire qu'on a des émissions tellement longues.
Et puis il faut dire qu'on a des émissions qui changent tout le temps. Il y a du monde, ça tourne. Bon voilà,
J'ai
bon.
essayé de trouver une blague avec Saturne, mais il n'y a rien qui vient.
Non, non,
Je
mais bon.
suis sur les rotules. Donc oui, donc le Twitter, hein, sur Facebook bien sûr, les commentaires sur le site. Vous retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes et vous pouvez nous envoyer des mails. L'adresse c'est podcast@comiccity.fr. On se dit à très bientôt, normalement mardi, si tout va bien. Je vois pas pourquoi ça n'irait pas. Mardi, un petit spécial.
Surprise.
Surprise, exactement. On ne révélera pas ce que c'est. Et puis voilà. Que dire
Ah,
de plus?
ben rien. À la semaine prochaine pour un nouveau wiki et puis à très vite pour un Comic City.
Exactement, j'aurais pas dit mieux moi-même. On peut laisser comme ça, on n'a pas besoin de dire au revoir.
Ça merde.